Mesdames, Messieurs, dans son mémoire annuel au gouvernement de Québec en 1954, la Confédération des travailleurs catholiques du Canada, aujourd'hui déconfessionnalisée, insistait auprès du Premier ministre sur le problème aigu du logement. Le Premier ministre d'alors était l'honorable Maurice Duplessis et M. Gérard Picard était le président de la Confédération. Pour alléger le problème du logement, le mémoire sollicitait le privilège de prêt sans intérêt pour les ouvriers qui voudraient se faire bâtir une maison familiale. Le gouvernement se chargerait des intérêts et l'ouvrier n'aurait que le capital à rembourser. Le mémoire ne demandait pas de briques, mais de l'argent. On sait bien que les maisons sont bâties avec des briques, mais on sait bien aussi que les briques deviennent des murs seulement quand l'argent est là pour payer. Si l'argent n'est pas là, les briques ne bougent pas et des ouvriers du bâtiment grossissent le nombre des chômeurs. M. Duplessis objecta. Un prêt sans intérêt pour l'ouvrier, c'est-à-dire un prêt dont le gouvernement paierait l'intérêt à la place de l'ouvrier emprunteur, mais vous nous demandez de payer la maison à la place de celui qui l'habite. M. Picard répondit, « Non, les ouvriers rembourseront le capital sur les 20 à 30 ans. » M. Duplessis reprit, « Dans 15 à 20 ans, le montant de l'intérêt est égal au montant du capital. Si l'ouvrier ne rembourse que le capital, et si le gouvernement paie les intérêts, le gouvernement paiera le même montant que le prix de la maison au bout de 15 à 20 ans et il pourra encore avoir quelques années d'intérêt à payer en plus. » M. Duplessis ne pouvait pas mieux démontrer que la famille pauvre, celle qui ne peut pas payer une maison excepté par versement annuel, est obligée de la payer deux fois. C'était vrai en 1954. C'est encore vrai aujourd'hui, car cela ne dépend pas du parti au pouvoir, mais du système financier que tous les gouvernements respectent innocemment ou lâchement ou criminellement. Voici une maison qui coûte à bâtir, disons, 8000 piastres. Si vous êtes riche, vous la payez tout de suite 8000 piastres, pas plus. Mais si vous êtes pauvre, vous la paierez 12 000, 15 000 piastres et même plus, selon le nombre d'années que ça vous prendra. Plus vous êtes pauvre, plus vous prendrez d'années à la payer, et donc plus elle vous coûtera cher. On donnera toutes les raisons que l'on voudra pour expliquer pourquoi il en est ainsi. On invoquera les règlements financiers qu'on voudra, règlements établis par les hommes, pas par le bon Dieu. Il reste que le pauvre doit payer deux fois ce que le riche n'a à payer qu'une fois. Le moins capable de payer est obligé de payer plus que le plus capable de payer. Et cela est injustifiable. Les ouvriers ont raison de demander une maison financée de manière à n'avoir à la payer qu'une fois. Mais la solution ne consiste pas à faire le gouvernement payer la deuxième fois à leur place. Quand c'est le gouvernement qui paye, il le fait avec les taxes. Ces taxes sont tirées directement ou indirectement de tout le monde. Et la majorité de tout le monde, ce sont justement les ouvriers. Ce serait donc en définitive les ouvriers eux-mêmes qui en feraient la grosse part des frais. D'ailleurs, nous, les créditistes, nous ne demandons pas aux riches de payer une deuxième fois à la place du pauvre. Nous voulons que personne ne soit obligé de payer deux fois. C'est le système financier qui est faux. Et il est grand temps que les ouvriers se mettent avec les créditistes pour demander le changement. La maison n'est bâtie qu'une fois. Les excavations ne sont creusées qu'une fois. La charpente, la maçonnerie ne sont montées qu'une fois. La tuyauterie n'est installée qu'une fois. Les ouvriers qui bâtissent et les fournisseurs de matériaux ne sont payés qu'une fois. pourquoi donc faut-il payer la maison deux fois? On la paye une fois aux fournisseurs de matériaux et de travail, on la paye la deuxième fois au système financier. Le système financier ajoute au prix de la maison. Le système financier est un poids au lieu d'être un simple organisme de service. Quand donc, messieurs des syndicats et des unions, quand donc allez-vous réclamer la disparition de cet ogre, de ce voleur, et l'établissement d'une finance de crédit social? Le crédit social dit, toute production nouvelle doit être financée avec des crédits nouveaux. C'est bien cela, n'est-ce pas, que vous voulez, messieurs les ouvriers, un crédit nouveau pour bâtir une maison qui n'existait pas et dont une famille a besoin. Le crédit social ajoute, et les crédits seraient retirés à mesure seulement de la consommation, à mesure de la disparition de la richesse produite. La maison ne peut pas disparaître plus d'une fois. Elle ne serait donc, avec le crédit social, elle ne serait donc jamais payée plus d'une fois. C'est le crédit social qu'il vous faut, messieurs les ouvriers, à vous comme à tout le monde d'ailleurs. Il en est ainsi pour ce qui concerne le problème du chômage. Là aussi, c'est perdre son temps que chercher une solution au système du chômage dans le système financier actuel. Devant ce problème, que font les chefs ouvriers? Ils demandent au gouvernement, à Ottawa dans les circonstances, de faire exécuter des travaux publics pour donner de l'ouvrage aux chômeurs. De quoi manque-t-on? De produits ou d'argent? Lorsque la production chôme, ce n'est certainement pas parce que les produits manquent, mais parce qu'ils s'accumulent, faute de pouvoir d'achat chez ceux qui en ont besoin. Pourquoi donc demander d'autres productions au lieu de demander de l'argent pour acheter des produits qui sont bel et bien là, en abondance? Demander du travail pour acheter le fruit du travail déjà fourni, c'est obligé à gagner son pain deux fois pour pouvoir le manger une fois. Demander des travaux publics sur le système financier actuel, c'est aussi demander une hausse du coût de la vie. Il faut payer la production publique comme la production privée. Le gouvernement nous fait payer les travaux publics en taxes. Les ouvriers qui demandent des travaux publics veulent-ils donc plus de taxes? Taxes qui pèsent déjà lourdement sur leur budget familial. Si certaines taxes ne sont pas payées par eux-mêmes personnellement, elles leur retombent quand même sur le dos dans les prix. La solution serait dans la distribution de plus de pouvoir d'achat, mais sans charger ni l'industrie ni les contribuables. Si l'on fait l'industrie payer davantage, elle hausse ses prix. Si l'on fait les contribuables payer davantage, on diminue le pouvoir d'achat par ces taxes. Là encore, le crédit social présente la formule appropriée au progrès qui remplit les magasins avec la production des machines. La formule, continuer à payer des salaires à ceux qui sont employés par la production, mais verser en plus un dividende à tout le monde, employé ou non, pour payer les produits de la machine, les fruits du progrès. Alors, les produits iraient aux maisons, les produits consommables, ceux qui répondent aux besoins des individus et des familles. Et la production continuerait de fournir les magasins. L'industrie continuerait d'employer les bras valides pour entretenir le flot de production. Les dividendes à tout le monde feraient continuer le salaire aux employés. Ne voyez-vous pas, messieurs des unions ouvrières, que vous avez besoin du crédit social? Pourquoi n'est-ce pas là la première de vos demandes dans vos démarches à Québec ou à Ottawa? Ne voyez-vous pas aussi que le système financier actuel est à la base de tous vos problèmes, de toutes vos difficultés avec vos employeurs? Vous est-il arrivé de vous trouver dans un magasin en même temps que votre patron? Vous y êtes-vous chicané parce que votre patron importait tous les produits et n'en laissait pas pour vous? Avez-vous eu à vous plaindre que le marchand remplissait tellement le panier de votre patron qu'il n'en restait pas pour vous? Le marchand n'est-il pas content de vendre aux deux et n'en a-t-il pas en abondance pour vous deux? Ce n'est donc pas parce que votre patron en prend trop que vous n'en avez pas assez. C'est parce que le système financier vous barre l'accès à l'abondance non distribuée. Et c'est justement parce que le système financier vous empêche de puiser à cette abondance que vous êtes visité par le chômage. Ce ne sont pas des ventres trop pleins qui vous empêchent de manger. Ce sont des têtes féroces qui vous mettent en pénitence devant cette abondance. Ce sont les puissants de la finance qui veulent garder leur pouvoir en vous maintenant dans la pauvreté et l'insécurité économique. Il est démodé le système financier qui n'est pas capable de distribuer du pouvoir d'achat autrement que par l'embauchage des hommes, alors que le progrès consiste justement à embaucher de plus en plus les machines à la place des hommes. Il est faux le système financier qui n'est pas capable de distribuer du pouvoir d'achat supplémentaire sans augmenter les prix, alors que les prix sont déjà plus gros que le pouvoir d'achat. Demandez donc avec les créditistes le dividende à tout le monde, parce que le progrès, de plus en plus gros facteur de production, est un capital social qui appartient à tout le monde. Vous êtes tous capitalistes. C'est un dividende et non pas de l'embauchage qu'il faut réclamer. Est-ce que les capitalistes demandent de l'emploi ou bien ils ne demandent pas leur dividende? Et les créditistes ne cessent de réclamer le dividende, pas pour eux seulement, mais pour tout le monde. Ils le réclament comme un dû et non pas comme une aumône. Depuis des années déjà, les créditistes dénoncent l'injustice faite aux familles qui élèvent des enfants en refusant de hausser le taux des allocations familiales. Ces allocations sont en quelque sorte un dividende aux enfants, mais le taux en est resté au même point qu'en 1945, sauf la dérisoire augmentation de 1 dollar accordée en 1957. C'est très insuffisant, une moyenne de 25 sous par jour, mais c'est une honte. Ces allocations devraient être au moins triplées. On achète beaucoup moins aujourd'hui qu'en 1945 avec l'argent d'aujourd'hui. Y a-t-il moins de choses à vendre qu'en 1945? Allons donc, la multiplication des chômeurs, malgré tout ce qu'on met à la production de guerre, prouve le contraire. Le Canada est certainement capable de fournir deux autres fois 25 sous par jour de plus à chaque enfant. Ce ne sont pas nos marchands, ni nos cultivateurs, ni nos fabricants de chaussures ou d'habits ou de remèdes qui diront le contraire. C'est 25 dollars par enfant par mois que devrait être aujourd'hui l'allocation familiale. Des allocations familiales portées à 25 dollars par mois par enfant, ce serait déjà un adoucissement au problème du pain quotidien dans toutes les familles où il y a des enfants. Et ce serait en même temps stimuler la vente de produits qui s'accumulent. Quels seraient donc les premiers bénéficiaires d'allocations ainsi triplées? Premièrement, les familles qui les recevraient. Deuxièmement, les salariés dont l'emploi serait consolidé par un meilleur écoulement des produits. Nous demandons à tout le monde, pas seulement à ceux qui ont des enfants, mais à tous ceux qui ont encore une place pour la logique dans leur tête et pour la charité dans leur cœur, de se joindre aux créditistes pour réclamer des allocations familiales de 25 dollars par enfant par mois. Ce ne serait que le redressement d'une affront fait aux familles en ayant ignoré ce seul chapitre de la sécurité sociale, alors que pour tout le reste, on a tenu compte de la hausse du coût de la vie. Les députés ont su en tenir compte de cette hausse du coût de la vie pour leur salaire qu'ils ont monté à 18 000 $ par année. L'application du crédit social permettrait de résoudre facilement et efficacement non seulement le problème du logement et le problème du chômage, mais également les 1000 autres problèmes d'argent qui naissent à tous les coins, pour les corps publics aussi bien que pour les individus et pour les familles. Mais pour se renseigner sur le crédit social, Ce n'est pas à un parti politique qui porte son nom qu'il faut s'adresser. Il faut chercher la vérité dans l'organe authentique du Crédit Social, le journal Vert de Main.